une chaleur formidable. Et donc, Shanatova, Gmaratsimatova. Nous allons donc, dans l'honneur aujourd'hui d'avoir le Rav Bereshi, nous sommes le 6 octobre 2019, qui va nous faire un cours sur les secrets de la Haftara Yona.
Les secrets. Ouais.
Voilà, la parole est à vous.
Donc, bonsoir à tous. Tout d'abord, je voudrais remercier monsieur et madame Guetta pour leur accueil. Et vous tous qui vous êtes déplacés ce soir. Donc pour ce shiur, les secrets, ça c'est Jean qui a choisi le titre du sujet, les secrets. On dit les secrets, c'est un peu dur les secrets. Il m'a dit bon, on va ouvrir un peu le Zohar, on va chercher les secrets. Bon. Alors effectivement, Yom Kippour arrive et la Mishnah nous dit dans Masechet Megillah que à Mincha, on va lire dans le Sefer Torah et on va même faire une haftara, la haftara de Yona. Yona, le Sefer Yona, qui fait partie des Tréhassar, c'est-à-dire d'un des livres du Nar. Et pourquoi on va donc lire cette haftara de Yona? Qu'est-ce qu'il y a de si particulier? Alors c'est vrai qu'on voit que Yona a été appelé par Akadosh Baruch Hu pour aller dire aux habitants de Ninive de faire Teshuvah. Donc c'est peut-être ce que l'on veut nous rappeler aussi, de faire Teshuvah à ce moment de Yom Kippour. Alors nous allons voir que c'est un peu plus profond que ça. Et tout d'abord, en essayant un peu de développer, de voir qui était Yona et quelle est son histoire, puisqu'il y a des psukim qui sont assez difficiles à comprendre, et quelle a été toute sa démarche. D'abord, il est vrai que le Magen Avraham rapporte que dans certaines communautés, on lisait la Haftara de Yona que 3 psukim en hébreu, et tout le reste était lu dans la langue qui était parlée dans l'endroit même. C'est-à-dire que on l'aurait lu en français, en anglais, en espagnol, n'importe quelle langue, amen, comme si il était si important, tellement important de comprendre cette haftara de Yona. Donc qui est Yona? À quelle époque se situe Yona? Yona ben Amittai, il fait partie, comme l'expliquent les Mefarshim, il fait partie des élèves de Elisha Anavi. Donc Elisha, ça nous remonte donc au début du premier Beth Amikdash, après Shlomo HaMelech, à l'époque même de Yerovam ben Yoash. Et donc, Akadosh Baruch Hu dit à Yona, va dans la ville de Ninive, dans cette grande ville, et tu vas aller leur dire qu'il faut faire Teshuvah, parce que sinon, ben, je vais détruire toute la ville. Bon, alors, Yona décide de s'enfuir. Il ne veut pas cette mission. Pourquoi il ne veut pas cette mission? Alors Rashi nous rapporte ce que nos Chachamim nous disent. C'est un Rashi qui est aussi étonnant. Yona, Mara Yona, dit Rashi, Shelo Ratza, Lelech El Ninve. Amar, il a dit, Agoim, Kerove Tshuvahem. Les Goim sont Kerove Tshuvah. C'est-à-dire, ils font vite Teshuvah. C'est-à-dire, je vais leur dire de faire Tshuvah, ils vont tout de suite faire Teshuvah. Et alors? Eh bien, Nimtzeti Mechayev et Israël, Shen Shomim le Divrei Nevim. Je vais ainsi rendre coupable Am Israël, puisque Am Israël n'écoute pas les Nevi'im. Donc les Goïm écoutent plus les Nevi'im que nous, les Goïm font plus vite Teshuvah que nous. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Krove Teshuvah, eux font plus vite Teshuvah. Alors c'est vrai que leur Teshuvah ne dure pas tellement longtemps, puisque comme on va le voir par la suite, c'est marqué dans Chazal que les habitants de Ninive ont fait une Teshuvah pour 40 jours ou pour 40 ans. Il y a 2 avis. Mais en tout cas, ils ont fait Teshuvah. Et Yona dit, ils sont crevés Teshuvah. Donc si je leur dis, faites Teshuvah, je vais ainsi rendre coupable tout Am Israël qui n'écoute pas les Nevim. Bon, et alors, qu'est-ce qu'il va faire Yona? Mais il décide de s'enfuir. Et il va s'enfuir de qui? Il va s'enfuir d'Akadosh Baruch Hu. Comment on peut s'enfuir d'Akadosh Baruch Hu? Donc là encore, ne pensez pas que Yona était un simple homme, puisque Yona c'était un navi, un prophète, l'élève d'Elisha, c'était un grand homme. Pour arriver à Darga, de la névoie, de la prophétie, il fallait être un des plus grands de la génération. Eh bien, Yona connaissait une halakha, c'est que Akadosh Baruch Hu ne donne pas de névoa en chutz la'aretz. Donc il s'est dit, je vais fuir, c'est-à-dire je vais partir d'Eretz Israël, je vais aller en chutz la'aretz. En chutz la'aretz, là, Akadosh Baruch Hu ne me parlera pas. Et puisqu'il ne me parle pas, eh bien, je ne devrais pas. Je n'ai plus de mission. C'était simplement ça, le calcul de Yona. Bien que par la suite, Akadosh Baruch Hu lui a parlé à Yona, même lorsqu'il était en chutz la'aretz. Alors là encore, nos Chachamim nous disent qu'Akadosh Baruch Hu ne s'adresse pas au prophète la première fois lorsqu'il se trouve en dehors d'Israël. Mais s'il était déjà prophète en Israël et qu'ensuite il va en chutz la'aretz, en dehors d'Israël, alors Akadosh Baruch Hu continue de lui parler. Mais ça, Yona, vraiment, ne le savait pas. Donc Yona décide de s'enfuir. Il va chercher, il va donc à Yafo et il va trouver un bateau. Vaiten Sechara, il va payer pour ce bateau. Et nos Chachamim nous disent ici qu'il a payé, très cher pour ce bateau. Pas seulement qu'il a payé le prix de son voyage, mais il a acheté tout le bateau. Il a pris le payé de un tarif assez cher. D'après un calcul de certains Mefarshim, il aurait donné de quoi vivre pendant 500 ans. Wow. Vous imaginez 500 ans.
Il faut vraiment fuir. Hein.
Donc c'est que vraiment, il voulait fuir, vraiment que Yona, il avait quelque chose ici.
Pourquoi est-ce que le capitaine ne voulait pas de lui?
Alors le capitaine ne voulait pas de lui, le point était peut-être plein, donc ça c'est vrai que ce n'est pas précisé. Mais donc, Yona va payer une grosse somme pour s'enfuir. Donc il va ensuite avec Tarshish parce qu'il s'enfuit. Et Akadosh Baruch Hu, il dit le roi Gdolaïlayam, donc une tempête. Et le bateau va presque se briser. Alors c'est marqué que les marins qui étaient donc sur le bateau, le capitaine du bateau, ont tous, Vaïzaku, Ishel Eloav, chacun a prié son Dieu. Et ils ont enlevé tout ce qu'ils pouvaient pour décharger le bateau. Et à ce moment-là, donc comme on sait que Yona est parti dormir dans la cale, dans la Yarkete Asfina, dans le bas du bateau, ce n'est pas qu'il a été surpris par la tempête alors qu'il dormait. Il y avait une tempête, il y a vu qu'il y avait la tempête, tout le monde commence à prier, et puis Yona, lui, il décide de descendre dans la cale, au fond du bateau. Et pas seulement il arrive au fond du bateau, Vaishka, Vaïradem, il arrive même à s'endormir. Quand même assez exceptionnel. Qu'est-ce que cela veut dire là? Yona arrive à s'endormir, il descend en bas du bateau, il descend dans l'endroit qui est en vérité le plus dangereux dans le bateau, parce que si le bateau va couler, c'est celui qui va mourir en premier. Donc qu'est-ce qui se passe ici avec Yona? Eh bien les Mefarshim nous disent que Yona pense, écoutez bien, que sa mission est de donner sa vie pour sauver Am Israël. Et il pense qu'il doit sauver Am Israël, il ne doit pas aller. C'est vrai que Akadosh Baruch Hu lui a dit va parler aux habitants de Ninive, mais lui pense que s'il va parler aux habitants de Ninive, ils vont faire teshuvah. Il va y avoir ensuite un kitroug, une accusation sur Am Israël. Donc il préfère Yona aller se suicider entre guillemets, aller mourir, mais pour ne pas qu'il y ait ensuite et donc un kitrou qui vont ainsi sauver Am Israël. Un peu comme les Parchim disent, comme Moshe Rabbeinu, qui a refusé d'aller parler à Paro en Égypte. Pourquoi? Pour ne pas vexer son frère qui était plus grand que lui. Là encore, Akadosh Baruch Hu lui dit va, et Moshe Rabbeinu refuse. Parce que Moshe Rabbeinu pense que même si c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a dit tu dois aller parler à Paro, eh bien, s'il va peut-être vexer son frère, donc ça veut dire que Moshe Rabbeinu pense que Akadosh Baruch Hu lui demande, bien que je te demande d'aller chez Paro, bien toi tu dois refuser pour ne pas vexer ton frère. Et donc là Yona se dit, c'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu m'a dit d'aller parler aux habitants de Ninive, mais sachant que si je vais qu'ils vont faire teshuvah, il va y avoir une accusation sur Am Israël, eh bien je suis prêt à donner ma vie, c'est certainement ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de moi. Et donc, il va aller au fond du bateau, prêt à mourir pour sauver Am Israël. Ça, c'est une explication qui est rapportée dans les Mefarshim. Mais ensuite, il y a le Rav Achovel, le capitaine du bateau, qui lui dit la fameuse phrase « Malecha Nirdam ». Pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce que tu veux là ? Qu'est-ce que tu dors ? C'est cette phrase-là qu'on reprend dans les Slichot. « Kum kera et kera ». Peut-être que Akadosh Baruch Hu nous changera d'avis. Et donc, ils ont fait un tirage au sort. Et le tirage au sort est tombé sur Yona. Alors, qu'est-ce qu'il leur a dit, Yona ? Tout de suite, le tirage au sort, ça, on en avait parlé une fois du tirage au sort. Ainsi, ils m'ont rappelé que le tirage au sort, ils auraient pu dire, c'est normal, si on met un tirage au sort entre nous, il y a bien sur quelqu'un sur qui ça va tomber. Donc, Yona, il aurait pu dire, cette fois-ci, c'est tombé sur moi, mais on refait le tirage au sort, ça tombera sur un autre. Bon, ils savaient que si c'est un tirage au sort, même les goïms se sont dit, un tirage au sort, c'est pas un hasard que ça va tomber juste sur cette personne. Ils ont dit, si c'est toi, c'est qu'il y a quelque chose. Et là, il leur a dit la fameuse phrase, Ivri Anochi, Vet Hashem, Eloke, Hashamay, Mani Yare. Donc, j'ai peur d'Akadosh Baourou. Et les gens ont compris que c'était donc Yona qui s'enfuit. Et c'est à cause de lui qu'arrive cette tempête. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que la mer se calme? Et là, il leur dit, c'est simple, prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Jetez-moi, c'est-à-dire que Yona n'était pas prêt lui-même à se jeter. Si vous voulez, c'est à vous de me jeter. Jetez-moi. Et comme c'est marqué dans Pirkei de Rabbi Eliezer, qu'ils ont pris non que Yona, ils l'ont mis dans l'eau et la mer se calme. Ils l'ont relevé la mer encore une fois. On reprend belle, ils le mettent dans l'eau. Donc ils ont compris que c'est à cause de lui. C'est marqué aussi que tout autour d'eux, la mer était calme. C'était juste autour de ce bateau qu'il y avait une tempête. Donc ils ont compris qu'il y avait quelque chose. Donc ça c'est. Donc ensuite on connaît donc la suite de l'histoire. Donc ils ont jeté Yona dans la mer et c'est un poisson qui a avalé Yona. Et comme nos chachamim nous disent qu'il a été rejeté par le premier poisson, et ensuite il est rentré dans un deuxième poisson, parce que la première fois, il était, comme ça que Chazal nous rapporte, il était un peu à l'aise, Yona, dans le poisson. Et donc Akadosh Baruch Hu a dit, je vais le mettre dans le ventre, il va être avalé par une femelle qui morde ses petits, donc là il va être à l'étroit, et puisqu'il va être à l'étroit, il va prier. Donc Yona a été avalé par un premier poisson, un deuxième poisson, et c'est là qu'il a prié. Et ensuite, donc, le poisson l'a rejeté sur terre, et il va ensuite donc être obligé d'aller dans la ville de Ninveh. Et lorsque il arrive dans la ville de Ninveh, donc imaginez un peu comme les Farshim nous disent, Ninveh, une grande ville. Imaginez qu'il y a un grand Chacham qui arrive dans n'importe quelle ville, maintenant à Paris, un rave qui arrive au milieu des Champs-Élysées et qui dit, attention, dans 40 jours, toute la France va être comme ça, renversée, tout le monde va mourir. Et puis, eh bien, ils l'ont pris au sérieux. Pas seulement qu'ils l'ont pris au sérieux, mais ils ont décrété un jeûne. Même le roi a décrété un jeûne très particulier, puisque cette fois-ci, il a demandé aussi que les bêtes jeûnent. Pas seulement les hommes, mais même les animaux devaient jeûner. Et pas seulement que les animaux devaient jeûner, mais ils ont séparé les mères de leurs petits, afin que leurs petits pleurent et que les mères crient, et puis qu'il y ait ainsi des cris des animaux qui vont aussi pleurer, implorer à Kadosh Baruch Hu, pour que Kadosh Baruch Hu ait pitié d'eux. Donc on voit que, divinement, les habitants de Ninveh ont fait une teshuvah rapide, qu'on fait tchouva. Comment se fait-il qu'ils ont fait tchouva si rapidement? Alors c'est vrai aussi que dans les Mefarshim, Chazal les rapportait que le roi de Ninveh n'était autre que Paro. Un Paro qui a été sauvé, donc Paro ici qui avait vécu donc quelques 600 ans en plus depuis la sortie d'Égypte, et c'est Paro qui a ensuite été le roi de Ninveh. On reviendra là-dessus par la suite. Donc Paro, ce petit homme, comme le dit la Gemara, qui ne faisait qu'une amma, donc 60 cm, il a été à la tête de la plus grande puissance de l'époque, qui était l'Égypte. Ensuite, il a fait périr tout son peuple, tout le monde a été noyé, c'est le seul qui a été sauvé, et il réussit malgré tout à devenir encore une fois roi, malgré qu'il a échoué, qu'il n'a pas rempli ses responsabilités, malgré tout. Il est redevenu roi dans la ville de Ninveh. Il a vécu Donc, si on a eu depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à cette époque-là, donc il y a au moins près de 600 ans. Et donc, ce même Paro, qui est maintenant le roi de Ninevé, prend au sérieux les paroles d'Akadosh Baruch Hu et dit à son peuple, il a l'expérience, il dit, faites teshuva. Son expérience ne lui a pas longuement servi, puisqu'on voit que son peuple, il l'a laissé aller à la dérive. C'est qu'une fois qu'on vient et qu'on les rappelle, alors tout de suite, il y a un élan de teshuva, puisqu'on a dit son crové teshuva. Mais crové teshuva, une teshuva qui ne dure pas. Puisque Paro fait teshuva, et puis ensuite il retombe. Encore une fois, le roi de Ninevé, il fait teshuva, encore une fois, il va tomber. Et c'est marqué aussi que les marins qui se trouvaient dans ce bateau ensuite ont atterri ensuite dans la ville de Ninevé. Et donc, ils ont raconté à tout le monde, vous savez, cet homme-là, il était dans le bateau, voici ce qui nous est arrivé. Et dès qu'on l'a jeté à la mer, donc parce qu'il s'enfuit, il ne voulait pas. Donc là, ils ont pris tous au sérieux les paroles de Yonah. Ils ont effectivement fait teshuva au point que c'est marqué « Vayar Elokim et Maasem Kishavu Midarka Mara'a » Akadosh Baruch Hu a vu que les habitants de Ninevé ont fait teshuva et « Shavu Midarka Mara » de leur mauvaise habitude, de leur mauvais chemin. Et on voit qu'ils ont été, ils ont fait une grande teshuva. Une grande teshuva même plus forte que celle en général des Bnei Israël, puisque c'est rapporté dans Chazal, il y a une machloquette. Est-ce qu'ils ont tout rendu ce qu'ils avaient volé? Certains disent qu'ils ont même détruit leur maison. Celui qui avait volé une poutre a détruit sa maison pour ensuite rendre la poutre, pour restituer la poutre. Alors que nous avons une takana qui est appelée dans la Gemara la takanat meresh. Meresh, c'est la poutre. C'est-à-dire que nous avons une takana pour ne pas repousser celui qui veut faire tshuva. Normalement, celui qui a volé doit rendre ce qu'il a volé. Eh bien, nos chachamim m'ont dit, dans le cas où quelqu'un a volé une poutre et qu'il a construit, sa maison avec cette poutre, il n'est pas obligé de casser sa maison pour rendre la poutre. Sinon, il ne va pas faire tshuva. La Gemara me rapporte qu'il y avait quelqu'un qui a voulu faire tshuva. Sa femme lui avait dit, mais si tu vas faire tshuva, tu n'auras plus rien à toi. Puisque tu avais tout volé, tout ce qu'il avait, c'était ses moulins. Et parfois, donc ça retient qu'un homme ne va pas faire teshuva. Donc les chachamim m'ont dit, tu veux faire teshuva, il y a une poutre qui est dans ta maison, tu la laisses, tu vas donner, rendre donc, le prix de cette poutre-là, mais la poutre, tu la laisses. Eux nous disent, les chachamim, même la poutre qu'ils avaient volée, ils l'ont rendue. Donc ils ont fait une teshuva qui est absolument très forte. Mais c'est une teshuva qui, d'une certaine manière, ne peut pas durer, puisque pourquoi les Chachamim nous ont allégé la teshuva et la kanat meret? Parce que les Chachamim veulent que cette teshuva dure. Lorsque quelqu'un il a un élan de teshuva, il va dire, bon allez, je vais rendre, mais tu sais bien que ça va être difficile de rendre, de casser ta maison. Donc si on te laisse avec la poutre, tu vas faire ta teshuva petit à petit, mais cette teshuva durera. Donc maintenant, revenons à notre Yonah. Donc Yonah, à la vie, comme nous l'avons vu ici, il s'enfuit et il ne veut pas accomplir sa mission. Le Mishnah Bura, dans les Chot Yom HaKippurim, rapporte les raisons pourquoi on va lire la Haftara de Yonah. Et il dit, voilà, on apprend qu'on ne peut pas se sauver d'Akadosh Baruch Hu. Il rajoute en bas dans le Shaar HaTzion, c'est pas son habitude au Mishnah Bura, puisque c'est un sefer de Halakha, le Chafetz Chaim, mais là, le Mishnah Bura nous rapporte quelques lignes. Il dit, voici ce que le Levouche, qui a rapporté cet enseignement-là, a voulu dire. Il dit, parfois l'homme, donc je traduis directement le Shaar HaTzion, le Chafetz Chaim lui dit, parfois l'homme en arrive à se désespérer et à dire, je peux pas tout arranger, je peux pas tout faire. Et donc, bon, eh bien, ce que je fais, je continue comme je suis. Et si Akadosh Baruch Hu décrète sur lui la mort, eh bien, qu'il meure, eh bien, dit le Mishnah Moura, non, c'est une erreur. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ce que Akadosh Baruch Hu veut de cette âme, de cet homme-là qu'il fasse, il sera obligé de le faire et il reviendra une fois ou encore une fois ou plusieurs fois dans ce monde-ci, le fameux principe du Gilgul, pour qu'il puisse être metaken, puisse arranger ce qu'il doit arranger dans ce monde. Donc dit le Chafetz Chaim, donc à quoi ça sert de vivre toute une vie, de mourir, de souffrir de la mort, puisqu'il y a aussi le fameux Chibout HaKever après la mort, pour revenir encore une fois, voici la preuve de Yonah. Akadosh Baruch Hu a voulu qu'il aille prophétiser pour la ville de Ninveh. Il n'a pas voulu, il s'est enfui. Et en fin de compte, donc il a été avalé par un poisson. Il est resté quelques jours, Mishnah Boura, dans le ventre de ce poisson. Et donc, on voit bien que on aurait pu penser que puisqu'il est dans le poisson, après cette tempête dont il vient, il ne pourra pas accomplir ce qu'Hachem lui a demandé. Eh bien, on voit que donc, en fin de compte, Akadosh Baruch Hu l'a ramené. Il a été rejeté à terre et il est donc revenu pour faire la mission qu'il avait sur terre. Donc de là, les Mefarshim nous disent une des raisons pour laquelle nous allons à Yom Kippour lire la Haftara de Yonah, c'est pour savoir que nous avons tous une mission sur terre et que cette mission, on ne peut pas l'échapper. C'est-à-dire que si on ne fait pas ce que Akadosh Baruch Hu nous a demandé de faire, eh bien, on reviendra encore une fois, soit un Gilgoul, un deuxième, ou même dans ce même Gilgoul, on va essayer d'éviter, Akadosh nous ramènera, parce que ce que l'on doit faire, ce que l'homme a comme mission, ce qu'il doit faire, eh bien, Akadosh Baruch Hu ne le lâchera pas tant qu'il n'aura pas fait sa mission. Quelle est la mission de l'homme? Alors, c'est vrai, vous savez, c'est quoi la mission? La mission de l'homme, elle dépend de chacun d'entre nous. On ne peut pas dire qu'on a tous la même mission. D'ailleurs, le fameux Abraskel Abramski avait l'habitude d'expliquer le vidouille que l'on dit « Yom HaKippurim, Hasham, Nou, Bagad, Nou, Gazan, Nou ». Il dit que chacun a un vidouille différent. Chacun en fonction de son métier, chacun en fonction de sa mission, chacun en fonction de ce qu'il faisait. Lorsqu'il s'adressait aux Bahouri et Shivot, il leur disait « Vous savez, c'est quoi pour vous, Hasham, Nou, Bagad, Nou, Hasham, Nou ?» On a fauté qu'on n'a pas étudié cette maseret du chasse. Bagadnou, qu'on l'a commencé, et bagadnou, c'est-à-dire on l'a trahi, c'est-à-dire on a commencé la maseret, et ensuite, eh bien, on l'a laissé, on en a pris une autre. Gazalnou, c'est qu'on a volé des divrei Torah d'un autre, et on les a dit en notre nom. Dibarnou Dofi, on a dit des choses qui n'étaient pas vraies, vinou, on a tordu, virchanou, zadnou, on savait qu'on avait tort, et malgré tout, on a volontairement maintenu notre position. Et ainsi de suite, il expliquait tout le vidou. Pour celui qui est commerçant, eh bien son vidou, il est aussi dans celui qui est dans notre métier. Et chacun d'entre nous, en fonction de ce qu'il fait, de son idée, le hachamnou, le bagadnou, le zalnou, bien sûr, il y a l'explication simple. Mais il y a un peu plus, si on approfondit un peu plus le Hasham Nou Bagad Nou, c'est-à-dire dans notre mission, dans ce que HaKadosh Baruch Hu nous a demandé de faire, eh bien, on n'a pas fait exactement ce que HaKadosh Baruch Hu attendait de nous. Donc, cet enseignement que nous apprenons de Yonah, c'est vrai que Yonah, lorsqu'on voit ce qu'il a fait, Yonah, lorsqu'il s'est enfui en d'Eretz Israël, c'est un grand sacrifice qu'il a fait, Yonah. Parce que il a laissé d'abord Eretz Israël avec le Beth Amikdash, avec la Shrina, un Navi à qui Akadosh Baruch Hu lui parle de laisser tout ça, de laisser sa famille, de tout abandonner, tout il a laissé pour partir. Ensuite, il était prêt, comme nous l'avons vu, à se suicider. Donc on voit que pas le mot suicider, mais de se laisser mourir. C'est-à-dire, Yonah a été jusqu'au bout parce qu'il pensait que c'était ça sa mission. Nous avons tous une mission sur Terre. Et ce que nous devons apprendre de Yonah, c'est premièrement qu'on doit tout faire pour accomplir notre mission. Et deuxièmement, comme dans le cas de Yonah, puisqu'il s'est trompé en fin de compte, il pensait que sa mission dans ce cas-là était de fuir à Kadosh Baruch Hu, alors que sa mission était en particulier d'aller et de dire de faire le temps de Ninveh. Et donc on a vu que bien qu'il a été, il s'est enfui, il a cherché à fuir à Kadosh Baruch Hu, en fin de compte il a dû faire ce que Kadosh Baruch Hu lui a demandé. Donc ça c'est aussi un point que nous apprenons, qu'il n'y a pas d'échappatoire à Kadosh Baruch Hu, on est obligé de faire ce que nous on doit faire. Rabbi Chaim de Volozhin dans son Nefesh HaChaim explique que l'homme est venu dans ce monde. Il dit pourquoi l'homme est venu dans ce monde? Pour aider les autres. C'est pour ça qu'il est venu. Il est venu pour les autres, il n'est pas venu pour lui. Il est venu pour faire participer aux autres, pour donner aux autres de ce que lui, il a reçu, de ce que lui, il a pu acquérir dans ce monde. Ça, c'est le but de l'homme sur Terre. C'est-à-dire de partager ce que HaKadosh Baruch Hu lui a donné. De partager aux autres ce que Hachem lui a donné. Et donc, nous avons énormément d'exemples dans le vrai Chazal à cette explication de Rav Chaim Volozhin, puisque nous avons plusieurs exemples qui sont rapportés ici, entre autres dans le Sefer Vigadeta. Il rapporte la fameuse question qui a été posée par Tornos Ropus à Rabbi Akiva. Il lui a dit, Tornos Ropus, si Akadosh Baruch Hu aime les pauvres, puisque Akadosh Baruch Hu demande d'aider les pauvres, alors pourquoi Akadosh Baruch Hu ne leur donne pas ce qu'ils ont besoin aux pauvres? Qu'est-ce qu'il a répondu, Rabbi Akiva? Il a répondu, afin que grâce aux pauvres, on puisse être sauvé du Géhinam, c'est-à-dire que nous, on n'est pas toujours méritants, on va donner la tzedaka aux pauvres, et ainsi on va être sauvé du Géhinam. Qu'est-ce qu'il lui dit, Tornos Ropus? Il dit, ah bon, au contraire, tu mérites le Géhinam parce que tu as aidé le pauvre, puisqu'en fin de compte, Akadosh Baruch Hu, il le voulait, ce pauvre. Alors il rapporte, c'est comme un machal, un roi qui s'est fâché contre son esclave, il a décidé de le mettre en prison et il a ordonné de ni lui donner à manger, ni de lui donner à boire. Et il y a quelqu'un qui a été et qui a donné à boire et à manger à l'esclave du roi. N'est-ce pas que le roi va se mettre en colère contre cet esclave qui a donc désobéi au roi? Et puisque vous, les Bnei Israël, vous êtes appelés des Avadim, qui lit Bnei Israël Avadim, donc vous allez à l'encontre de ce qu'Akadosh Baruch Hu a demandé. Qu'est-ce qu'il répond à Rabbi Akiva? Il lui dit non, au contraire. C'est comme le roi qui s'est fâché contre son fils et qui l'a mis en prison. Il a demandé qu'on ne lui donne pas ni à manger ni à boire. Il y a quelqu'un qui a été donné à manger, à boire au fils du roi. Lorsque ensuite le roi a entendu, n'est-ce pas, qu'il va le récompenser et qu'il va lui donner un cadeau. Et nous, on est appelés Bani Matem Lachem Elokechem. Bon, alors Tonos Ropos, il lui a dit, vous êtes appelés Bani, vous êtes appelés Avadim. Tout dépend, il dit, ça dépend de votre comment vous êtes, si vous faites la volonté d'Akadosh Baruch Hu ou pas. Mais en tout cas, une question qu'on pourrait se poser, c'est que, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva? Il a dit, Akadosh Baruch Hu a laissé des pauvres pour que l'on puisse, nous, être sauvés du Géhinam. Et le pauvre, lui, vous imaginez, toute sa vie, il doit vivre pour que nous, on soit sauvés du Géhinam. Ah, c'est ça, c'est gentil, quoi, pour lui. Lui, on lui dit, tu sais pourquoi tu es pauvre? Eh bien, c'est pour lui rendre service. Parce que nous, pour ne pas qu'on aille au Géhinam, on a, en te donnant une petite pièce, en t'aidant, non, eh bien, grâce à toi, eh bien, nous allons te sauver du Géhinam. C'est une belle réponse, mais ça ne répond pas. Pourquoi le pauvre, lui, doit être dans... Eh bien, les Mefarshim disent, c'est ce que disait le Rav Dessler, il dit, c'est là la plus grande preuve à ce que nous dit Nefesh HaChaim, qu'un homme n'a été créé que pour les autres. Et si le pauvre comprend que grâce à lui, les Bnei Israël, les autres, vont être sauvés du Géhinam, eh bien, ça vaut la peine de vivre pauvre de cette manière, rien que pour sauver les autres du Géhinam. Un autre exemple que rapportait le Rav Dessler. Nous avons une mitzvah de Prika et de Teina. C'est-à-dire, mais c'est l'histoire de Prika et Teina, lorsqu'il y a un âne sur lequel on a mis des poids,
une charge,
et qu'il est rovet tachat masao, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas, il tombe. Alors parfois on a la mitzvah de le décharger, pour ensuite mieux le remettre, et parfois la mitzvah c'est de, au contraire, d'aider, de teina, d'aider le propriétaire de cet âne à charger tout ce qu'il a à mettre sur son âne. Donc on a une mitzvah de Prika, une mitzvah de Teina. Si on rencontre un homme et on doit l'aider à décharger son âne, on a la mitzvah de l'aider. Si on doit l'aider à charger son âne, on a la mitzvah de l'aider. La Gemara nous dit, si j'ai devant moi deux mitzvot, d'un côté il y a quelqu'un, il faut l'aider à décharger son âne, et de l'autre côté il y a quelqu'un, il faut l'aider à charger son âne. On va aider qui? Eh bien on va aider lequel? Celui de le décharger. Pourquoi? Parce qu'il y a Tsar Balechaim, la pauvre bête, elle souffre devant nous. La Gemara continue et nous dit, si il y a quelqu'un, Ohev, que j'aime, et lui, il faut l'aider à décharger. Il y a quelqu'un que je n'aime pas, Sonné, et lui, il faut l'aider à charger. Je vais aider qui? Celui pour décharger ou celui pour charger? Eh bien, c'est marqué que cette fois-ci, c'est pour charger. Pourquoi? parce que pour la Khof, pour essayer de forcer
de la paix, son
Yetzerara, de vaincre son Yetzerara, puisque je ne l'aime pas. Vous savez que Tosfot pose la question, qu'est-ce que ça veut dire je ne l'aime pas? Est-ce que j'ai le droit de ne pas aimer un juif? Et vous avez bien la réponse de Tosfot sur classe, est extraordinaire. Tosfot, il dit non, on parle de quelqu'un qui a fauté, et quelqu'un qui a fauté, et il n'y a pas de témoin pour aller le condamner au Bedin, eh bien, je ne peux pas le condamner, mais j'ai le droit de le haïr d'une certaine manière. Et donc, pourquoi je dois malgré tout l'aider? Parce que dit Tosfot, si moi, je le haïs, j'ai une petite haine, parce que j'ai le droit de le haïr, eh bien lui, comme il ressent cette haine, Kamaim Apanim, El Apanim, comme le reflet du visage dans l'eau, donc lui aussi, il va ensuite me haïr. Et lorsque je vais ressentir, mais je vais le haïr encore plus, et donc on va avoir boule de neige, et on va avoir une haine qui est en plus que ce que la Torah m'a permis. Et donc dans ce cas-là, Akadosh Baruch Hu me dit, c'est ce que l'Agman dit, tu vas aider celui donc, qui est sonné, que tu n'aimes pas particulièrement, pour pouvoir charger plutôt que de décharger. Et là encore, Rav Dester pose la question, mais il y a une bête ici qui souffre. Donc d'un côté, il y a la bête qui souffre, que tu devrais aider à décharger. D'un autre côté, tu veux essayer de travailler ton mauvais penchant. Eh bien, on te dit, tu laisses souffrir la bête pour travailler ton mauvais penchant. Pourquoi ? Eh bien, c'est que même l'âne, d'une certaine manière, il vaut mieux pour lui qu'il souffre afin que je puisse travailler mes mauvaises midotes. Même lui, il a une mission. Un autre exemple qui est aussi très, très fort que rapporte Rav Dessler, c'est Elisha ben Abouya. Elisha ben Abouya, vous connaissez son histoire, lorsqu'il est monté il faisait partie des quatre qui sont montés avec Rabbi Akiva, Elisha ben Abouya, Zoma et Ben Azai, qui sont montés pour voir la Merkava et Eliona. Et lorsque Elisha ben Abouya était là-haut, il a vu qu'il y avait un malach qui écrivait les Sruyot des Bnei Israël. Donc il s'est dit, peut-être que il y a une force, que les malachim ont une force, qu'il y a peut-être Tereshuyot, c'est-à-dire deux forces dans le ciel. Et à cause de cela, donc, Elisha ben Abouya a mal tourné, comme ça il est sorti, Tarbout Ra'a, et c'est marqué qu'on lui a montré, qu'on a frappé le malach en question, qui avait, en compte, écrit les mérites des Bnei Israël, comme Akadosh Baruch Hu lui demandait, on l'a frappé, on lui a donné 60 coups de feu, mais pour le malach. Pourquoi ? Pour montrer que ce malach n'a aucune force de par lui-même et qu'il n'est que le shliach d'Akadosh Baruch Hu. Et donc là encore, on peut se poser la question, ce malach-là, il n'a fait que sa mission, ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a demandé de faire, c'est-à-dire d'écrire les mérites d'Iné Israël. Pourquoi on va lui donner des coups? Parce que Elisha ben Abouya s'est trompé. Eh bien oui, pour qu'il y ait, pour Elisha ben Abouya, qu'il ne se trompe pas, pour qu'il y ait une toilette, quelque chose, pour qu'il en ait un quelconque, qu'il puisse avancer, Elisha ben Abouya, qu'il ne pas se tromper, eh bien, même ce malach-là va recevoir donc 60 coups alors qu'il ne les mérite pas pour ne pas que l'Isha ben Abouya voie. Donc ça, c'est nous dire Rav Dessler pour illustrer ce que nous dit Rabbi Chaim Volojine, que l'homme n'est venu dans ce monde-ci, en fin de compte, que pour aider l'autre, que pour faire partager ce qu'il a reçu d'Akadosh Baruch Hu aux autres. Et ça, c'est aussi Yona. Parce que Yona, il a la névoie, il sait ce que Akadosh Baruch Hu va faire, mais il se doit d'aller partager, même si ça va être donc difficile pour lui. Donc comme on l'a vu, il s'est trompé, ce n'était pas le bon réchoir, mais en fin de compte, nous on va retirer cette notion de Yona, que l'homme doit faire sa mission. Donc ce que nous avons vu, c'est un, qu'on ne peut pas échapper à la mission qu'Akadosh Baruch Hu nous a demandé de faire, et deux, que parfois l'homme doit même donner toute sa messirut nefesh pour pouvoir accomplir ce que HaKadosh Baruch Hu a demandé de lui. Et lorsque on approfondit encore dans l'histoire de Yona, alors on a le Zohar et le fameux pirouge du Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna a expliqué tout le Sefer de Yona en allusion, en remèze, d'après le Zohar. Le Zohar se trouve dans Parashat Vayakel. qui explique que Yona, c'est en vérité la Neshama. Yona, c'est la Neshama. Il rapporte donc le Zohar, le Gon de Vilna. C'est la Neshama que Akadosh Baruch Hu envoie dans ce monde-ci. Puisqu'on voit que Am Israël est appelé Yona, Yonati, Tamati, et comparé à la Yona, parce que la Yona, elle a aussi donc ses ailes qui la protègent, les mitzvot, la Yona est fidèle, et comme dans Shir HaShirim, Yonati, Tamati, lorsque on va égorger une colombe, elle se laisse faire, donc comme ça que c'est marqué, et c'est une des midas aussi du Am Israël, comme on voit dans le Tehilim, Alecha Ragnu Kol Hayom. Et donc nous dit le Gaon de Vilna, Vayi devar Hashem el Yona, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu s'adresse à la Neshama, et Yona c'est Ben Amitai, il est Ben, la Neshama est fils d'Akadosh Baruch Hu qui est Amitai, qui est Emet, Bani Matem Hashem Elokechem. Et cette Yona, cette Neshama, Akadosh Baruch Hu dit, Kum lech el Ninve, c'est-à-dire tu vas quitter ta place où tu te trouves dans le Gan Eden, tu vas descendre dans ce monde-ci. Ninve, c'est ce Olam Hazé, qui est, si on peut dire, un Naveu, c'est une habitation. Et c'est Aïr Agedola, puisque l'homme est appelé le Olam Katan, Ir Ktana, donc ce monde est appelé Ir Gdola. Et la mission de la Neshama dans ce monde, Vekara Alea, c'est de dire, dit le Gaon de Vilna, les mots de Ta'adam Da'at Shiyashubu Midarkamara. C'est-à-dire que la Neshama descend sur terre pour apprendre à l'homme de revenir sur le bon chemin. C'est-à-dire, pour comprendre ce que dit le Gaon de Vilna, donc la Neshama, les Goïms n'ont pas de Neshama. Les Goïms ont un Nefesh. Une âme qui est appelée la partie de Nefesh. Neshama, partie qui est plus haute, qui est donnée seulement au Am Israël. Et donc c'est Akadosh Baruch Hu qui s'adresse à la Neshama et qui lui demande de descendre sur terre dans le corps. Et ce corps, c'est cette Ir, et qui va lui demander d'apprendre aux hommes, de dire aux hommes, il faut revenir vers le bon chemin. Et là, le Gaon de Vilna va expliquer longuement toute l'histoire de Yona. Qu'est-ce que cela signifie Tarshish? Qu'est-ce que c'est? Donc Yafo, il va expliquer qu'en fin de compte, c'est donc le poisson, pour un peu, on ne va pas tout prendre toutes les explications du Gaon de Vilna, mais donc il y a le bateau dans lequel il se trouvait, c'est en vérité le Malachim, les marins, c'était le Moach et le Lev, les autres Kohot, chacun, donc entre la Neshama et le corps. Et ensuite, le Gaon de Vilna, comme dit, c'est que le Rav Achovel qui va dire Malecha Nirdam Kum Kera Elokecha, c'est-à-dire m'a parlé à la Neshama, va vite réveille-toi, alors que le corps, le gouffre, c'est lui qui dort, comme il y en a qui dormaient dans la cale du bateau. Ensuite, le poisson, d'une manière, dit le Gaon de Vilna, c'est le kever, c'est ça le poisson. Donc lorsque Yona se trouvait dans le poisson, c'est-à-dire c'est l'âme qui a quitté ce monde, qui n'a pas voulu faire ce qu'Akadosh Baruch Hu lui avait demandé, et qu'ensuite Akadosh Baruch Hu va faire ressortir encore une fois pour que cette fois-ci l'âme puisse aller dans Nineveh, dans ce monde, et donc donner la bonne parole, dire que voilà, ici il faut revenir, et donc pas seulement au Am Israël, mais à tout le monde entier, de revenir vers Akadosh Baruch Hu. Donc d'après le Zohar, d'après le Gaon de Vilna, toute la haftara de Yona, c'est en vérité la vie de l'homme, la Neshama qui descend dans ce monde, l'homme qui va fuir un petit peu sa mission, qui va aller dormir, qui va donc se laisser aller jusqu'au jour où il va être avalé par le poisson qui est le kever qui l'attend et qui va revenir encore une fois pour accomplir sa mission. Et donc ça aussi, c'est, d'après les Mufarshim, une des raisons pour lesquelles les Chachamim nous ont demandé de lire la Haftara de Yona, pour que, à ce moment-là, lorsqu'on arrive à la fin de Yom HaKippourim, qu'on médite, qu'on pense, qu'est-ce que nous sommes venus faire sur Terre? Donc Yona, c'est nous-mêmes, c'est notre Neshama, on est dans ce corps et on a une mission à accomplir. Et c'est maintenant le jour de Yom HaKippourim où nous devons faire, on va dire, Teshuvah, et pour pouvoir accomplir ce que HaKadosh Baruch Hu nous a demandé, notre mission sur Terre. Donc ça, c'était un premier point. On développait donc cette haftara de Yona. Donc nous avons vu que Yona a plusieurs remazim, plusieurs allusions. Et c'est ce que donc nous disons à Mincha, le jour de Yom HaKippourim. Donc je voudrais revenir à Yom HaKippourim même et vous rapporter les paroles du Rambam, puisque nous savons que Yom HaKippourim, c'est le jour où nous allons être pardonnés de toutes nos fautes. Est-ce que c'est vraiment de toutes nos fautes? Alors nous avons un Rambam qui nous dit ici qu'il y avait une différence entre l'époque du Beth Amikdash et aujourd'hui. Nous allons voir que le Beth Amikdash nous manque énormément. Parce qu'à l'époque du Beth Amikdash, le Seir Amishtalear, le bouc qui était jeté là à Azazel, ce bouc-là nous pardonnait de toutes nos fautes. C'est-à-dire de toutes nos fautes, tout était pardonné. Après Yom HaKippourim, une fois qu'on avait jeté de la falaise ce bouc, on l'appelle donc le bouc émissaire, il pardonnait, dit le Rambam, sur toutes les averot, celles qu'on appelle kalot, les légères et les chamourot, celles qu'on a fait volontairement ou involontairement, celles qu'on a su, celles qu'on n'a pas su, on a une kapara avec le Seir Amishtaler. Mais, dit le Rambam, une fois que nous n'avons plus le Beth Amikdash, à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle, ce qui est marqué dans la Gemara, les Arba Chilouké Kapara. C'est-à-dire qu'il y a quatre parties de Kapara, en fonction de la gravité des Averot. Puisque, bien que c'est marqué dans la Mishnah de Avot, on ne sait pas quelle est la valeur de chaque mitzvah. On ne peut pas dire que telle mitzvah est plus importante qu'une autre. Mais pour les Averot, on sait qu'il y a des Averot qui sont plus graves que d'autres, en fonction de la punition. Puisque, plus la punition est forte, plus on sait que cette Avera est grave. Et la punition qui est la plus forte, c'est lorsqu'il y a la peine de mort par le Bedin. Et après la punition de mort par le Bedin, il y a, lorsque on avera un homme est à la punition de karet, c'est-à-dire que retranché, à Kadosh Baruch Hu qui le demande. Ensuite, il y a des averot pour lesquels il n'y a pas, donc il y a mitab et des shamaim qui est un peu différent de karet, et il y a des averot pour lesquels il n'y avait pas donc de sanction, de peine de mort. Il y avait une transgression, et à l'époque du Bedin, du Beth Amikdash, l'homme recevait des coups. Les fameux 39 coups pour avoir transgressé tel ou tel avéra. Quelqu'un qui avait mangé un aliment non kasher, qui avait mangé une bête qui n'avait pas été gorgée, qui avait mangé du cochon, il n'y a pas de chiyuv mita, il n'était pas puni de mort. Il recevait 39 coups. Et il y a ensuite les commandements positifs. Lorsque un homme a transgressé un commandement positif, lorsqu'il fait teshuva, il est pardonné immédiatement. Et il n'a pas besoin de cela, Yom HaKippourim. C'est-à-dire que si quelqu'un a oublié de faire un jour son Birkat Hamazon, a oublié un jour de lire le Kriyat Shema, a oublié un jour de mettre les Tefillin, ou oublié, ou même pas oublié, ou même volontairement, il n'a pas accompli telle ou telle mitzvah, il n'a pas sonné du shofar, il n'a pas pris le lulav, il suffit de faire Teshuvah et il est pardonné immédiatement. Pour ça, on n'a pas besoin de Yom Kippour. On est pardonné sur place, par la Teshuva. Si il y a une Avera pour laquelle c'est un commandement, donc un lave, un commandement négatif, pour lequel l'homme aurait reçu des coups, les 39 coups, à ce moment-là, lorsque l'homme fait Teshuva, il n'est pas pardonné tout de suite, il doit attendre Yom HaKippourim. Lorsqu'arrive Yom HaKippourim, il est lavé aussi de toutes ces fautes pour lesquelles il aurait été puni par Malkout. S'il y a une faute pour laquelle il y aurait une punition de mort, une punition qui est par le Bedin ou par Karet, à ce moment-là, la Teshuva et Yom HaKippourim ne suffisent pas. Il faut encore quelque chose. Il faut quoi? Il faut, nous dit le Rambam, et c'est donc une Gemara dans ma Maseret Yoma, il faut des yissourim, c'est-à-dire il faut des souffrances. Mais Donc s'il faut des souffrances, on va dire, c'est dur de faire teshuva. Quelqu'un il dit, je vais faire teshuva, il va faire teshuva, il sait que juste après, il va avoir des tas de souffrances. Mm-hmm. Alors pour ça, nous avons le fameux Sharei Teshuva de Rabbeinu Yona, dont on sait, son Sefer Rabbeinu Yona, qui était un des Rishonim, nous dit qu'on peut éviter toutes les souffrances. Comment ? Il y a deux choses qui nous évitent toutes les souffrances, l'étude de la Torah et la Tzedaka. Grâce à l'étude de la Torah et la Tzedaka, on est pardonné de nos fautes sans souffrance. C'est comme ça que Rabbi Nuna explique. C'est un très bon deal. On étudie la Torah, on donne Tzedaka, il y a besoin de souffrance avec Roshna et Yom Kippour. Pour revenir à Yona, qui avait dit que les goïms sont kérivé tchouva. C'est-à-dire qu'ils font rapidement crever tchouva. Alors que Am Israël a plus de mal à faire teshuva. Pourquoi Am Israël a plus de mal à faire teshuva? Les Mefarshim nous disent parce que Am Israël cherche toujours la perfection dans la teshuva. Et donc, puisqu'il cherche la perfection dans la teshuva, cette teshuva est plus dure. Parce que l'homme se dit, je vais faire teshuva, une teshuva, il faut que ça dure, une teshuva, il faut que ça soit sincère, une teshuva, il faut que ce soit une bonne teshuva. On a une gemara dans Maseret Kiddushi. Un homme qui dit à une femme, il lui donne une bague de mariage, il lui dit, voilà, areat mekudesh etli, tu es ma femme, à condition que, s'il donne une condition, elle ne sera mariée à lui que s'il remplit cette condition. Donc il dit, je vais te donner des kiddushin à condition que je vais faire telle ou telle chose, je vais te donner telle ou telle chose, il m'arrive telle ou telle chose. Si la condition s'est accomplie, elle est mariée. Si la condition ne s'est pas accomplie, elle n'est pas mariée puisque les kiddushin étaient sous condition. Si un homme dit à une femme, je te donne ces kiddushin à condition que je suis tzadik gamour. Tzadik gamour. Et on sait que cet homme-là, il ne l'est pas. Est-ce que cette femme, elle est mariée ou pas ?
Oui.
Eh bien, c'est marqué qu'il y a un safek, elle est mariée. Elle ne pourra pas ensuite se marier avec quelqu'un d'autre tant qu'elle n'a pas reçu un guet de cet homme-là. Pourquoi ? Peut-être qu'au moment où il a dit cette phrase, il a eu un hirour de teshuva. Et le hirour de teshuva, à ce moment-là, va le rendre tzadik gamour. Même extraordinaire, un petit hirour de teshuva, il est tout de suite tzadik gamour. Il y avait le fameux, c'était des rabbis Zouché de Amipoli. Rabbi Zouché, c'était le fameux frère du Noam Elimelech. Il rapportait que les rachets tevot de teshuva, c'est un, tête, c'est tamim tiye imashem elokecha. Shin c'est Shiviti Hashem Nigdi Tamid, Vav c'est Ve'avta Leracha Kamocha, le Bet c'est Bechol Deracha Da'ehu et le He c'est Atzne Lechet. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là ? Il a dit le premier en disant Tamim Tiyim Hashem Elokecha. Il a dit Rabbi Zouché, donc c'est d'abord Chassidi, il a dit si tu veux faire Teshuva, Tamim Tiyim Hashem Elokecha, c'est-à-dire prends à la lettre ce que tu vois dans les Mamar et Chazal. Si on te dit que par un Hirur Teshuva, tu es tzadik gamour, crois-le et prends-le à la lettre. Tamim tiye, ne réfléchis pas, ne te dis pas, non, c'est pas possible. C'est pas possible que par un simple hirour teshuva, je peux devenir tzadik gamour. Et dis, si tu veux faire teshuva, prends à la lettre ce qui est marqué. Tamim tiye, machim lokera. C'est marqué que par un hirour teshuva, l'homme peut être tzadik gamour. Eh bien, crois-le et fais teshuva et sache que par ce hirour, cette petite pensée de teshuva, tu es déjà tzadik gamour. La difficulté pour Am Israël, et pourquoi Am Israël n'est pas Korové Teshuva, c'est que Am Israël cherche une Teshuva sincère, une Teshuva profonde, une Teshuva qui dure. Le Goy, il ne cherche pas une Teshuva qui dure. La preuve, c'est Paro. La preuve, c'est Ninvé. Puisque toute la ville de Ninvé a fait Teshuva, ils ont fait une Teshuva qui était extrême, ils ont été même faire jeûner les animaux, ils ont fait crier les animaux, pleurer les animaux. Mais cette tchouva n'a pas duré. Pourquoi ? Parce que c'était une tchouva qui était extérieure, qui était superficielle. Et c'est donc une tchouva qui ne peut pas tenir à long terme. Mais c'est quand même une tchouva. C'est quand même une tchouva, c'est ce que Akadosh Baruch Hu attendait au moins à ce moment-là des habitants de Ninvé. Am Israël veut une teshuvah qui est plus profonde, une teshuvah qui dure, une teshuvah qui est à long terme. Et donc c'est pour cela qu'Am Israël a plus de difficultés que le goy de faire teshuvah. Et c'est de cela que Yonah avait peur. Puisque Yonah a dit, je vais aller dire aux goyim de faire teshuvah, ils vont faire teshuvah, ça sera un kitrou sur Am Israël. Parce qu'on va quand même demander au Am Israël, même si on n'a pas une teshuvah profonde, eh bien c'est pas grave, au moins ce petit héros de teshuvah, un petit quelque chose pour faire mieux l'année prochaine. Avec, comme disait le Chazon Ish, il dit, Akadosh Baruch Hu, c'est exactement ce qu'on est. Et ce qu'il attend de nous, c'est qu'on soit un peu mieux l'année prochaine. C'est comme ça que dit le Chazon Ish. Il n'y a pas de grandes choses. Il dit juste que l'on soit un peu mieux l'année prochaine. Alors c'est vrai que Am Israël, chacun de nous, lorsqu'arrive Rosh Hashanah et Yom Kippour, on se dit, bon, on va prendre des bonnes résolutions, on va essayer de faire des grandes choses, on va prendre des choses que, en fin de compte, on n'arrivera pas à tenir. Et donc ce qui se passe, c'est qu'après quelques temps, on revient à la case de départ. Les Mefarshim nous disent que la raison pour laquelle Paro, Ninvé, leur tshuva n'a pas duré, c'est parce que c'était une tshuva qui ne s'est pas concrétisée dans une action, dans quelque chose. Pour que la tshuva dure, il faut la concrétiser. Il faut que l'homme prenne sur lui quelque chose et qu'il dise, voilà, j'ai un élan de tshuva, je veux faire mieux l'année prochaine, je vais faire quelque chose, et cette petite chose-là, c'est ça la clé, c'est ça qui va faire tenir ma tshuva. Le Rav Shach, lorsqu'on lui posait la question, ou même lui-même, il disait qu'est-ce qu'il avait pris sur lui l'année prochaine de faire mieux. Il disait bien, ce que je vais faire mieux, c'est que je vais lire le Birkat Hamazon avec un sidour. C'est tout ce qu'il y a, lire le Birkat Hamazon avec un sidour, pas sur des grandes choses. Mais c'est vrai que c'est une grande chose. Faire un Birkat Hamazon dans le sidour, c'est un autre Birkat Hamazon, c'est plus le même Birkat Hamazon. Faire une bracha dans un sidour, mais imaginons que chaque fois qu'on veut faire un boré et péria etz, ou qu'on veut faire un shéakol, on prenait un sidour, on regardait les mots dans un sidour, notre bracha, hein, ça serait une autre bracha. Bon, ça c'est déjà plus dur à accomplir. Même Birkat Hamazon, c'est plus facile. Toujours avoir Birkat Hamazon. Une première bracha dans le Shmoneh Esrei, dans la Hamida. C'est-à-dire que la première bracha, on fait attention, on regarde dans le sidour les mots. Une petite chose, mais au moins, on va concrétiser notre teshuva par une action. Paro, il a reçu des coups. Il a eu peur. Il a libéré Am Israël. Ensuite, il court derrière Bnei Israël. Il va tomber dans la mer. Toute son armée va être tuée. Il est le seul à être sauvé. Et malgré tout, il reste Paro. Pourquoi ? Il a eu un élan de teshuva. Il a vu de grandes choses. Mais ça ne s'est pas concrétisé dans quelques mois. Ensuite, il devient le roi de Ninvé. Ils font teshuva. C'est vrai qu'ils ont prié, qu'ils ont pris un sac, puisque chaque fois que nous, on va dans les moments de jeûne, nous dit la Gemara, celui qui parlait au Bnei Israël leur disait, souvenez-vous ce qui est marqué dans Ninvé, Akadosh Baruch Hu n'a pas vu leur sac, n'aura pas vu leur cendre, il a vu leurs actions. C'est-à-dire, puisqu'ils avaient fait tshuva, ils avaient changé de comportement. Mais ce changement de comportement n'a pas tenu. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas eu quelque chose de positif sur quoi s'accrocher. Et donc ce que nous pouvons, pour ne pas être donc comme la tshuva de Ninvé et avoir une tshuva sincère, une tshuva qui dure, c'est de prendre avec notre élan de tshuva quelque chose qui va tout au long de l'année nous garder dans cet esprit, puisqu'on va à chaque fois se rappeler, bon, ça je l'ai pris Yom HaKippurim, ça les Balai Moussar disaient que même cette nouvelle action avait tout au long de l'année la Kedusha de Yom HaKippurim. Et on va garder cette Kedusha de Yom HaKippurim tout au long de l'année. Puisque Yom HaKippurim, lorsque toute l'année, toute la journée, pardon, on va jeûner, on est comme des Malachim. Qu'est-ce qu'on dit en fin de compte à Kadosh Baruch Hu ? On vient lui dire, comme ce qui est marqué dans le Rambam, dans Ilchot Girushin. Le Rambam nous dit que si un homme ne veut pas divorcer sa femme, qu'est-ce qu'on fait si le Bedin doit le forcer à divorcer sa femme ? On va lui donner des coups jusqu'à ce qu'il dise « je suis d'accord ». Pourtant, on ne peut pas forcer quelqu'un à divorcer sa femme. Donc comment se fait-il que si on le frappe et qu'il dit « je suis d'accord pour échapper au coup », comment se fait-il qu'on accepte ce guet et ce guet est valable ? Eh bien, dit le Rambam, parce qu'au fond de lui, l'homme veut faire le bien. Seulement, il a le yitzhar, le mauvais penchant qui est autour et qui l'empêche de dire « je veux faire le bien ». Il l'empêche de faire le bien. Donc c'est pour cela qu'il va, on va lui donner des coups. En lui donnant le coup, on va un petit peu atténuer son mauvais penchant. Et donc lorsqu'il va dire « je veux », c'est pas qu'il a voulu juste échapper mou, c'est qu'il a le bon qui est en lui qui a dit « je veux rotse ani » et à ce moment-là, le guet est malade. Yom HaKippurim, ce qu'on dit à Kadosh Baruch Hu, c'est on a jeûné toute la journée, on est fatigué, on n'a plus les mêmes forces. Kadosh Baruch Hu, voilà, maintenant il y a le bon qui est en nous qui sort. Le bon qui est en nous qui sort, il sort à quel moment ? Il sort au moment de, à la fin de la journée, il sort au moment de la de Mincha, au moment de la Nehila, où on est fatigué, on n'a plus les mêmes forces. Souvent on se pose la question, si on doit faire teshuvah, il vaut mieux manger toute la journée, être en pleine forme, et on va prier, on va pouvoir, lorsqu'on arrive à la fin de Yom Kippour, on est fatigué, on a mal à la tête, on n'arrive pas à prier comme il faut. Au contraire, c'est justement dans ce moment-là que, même si c'est plus difficile, mais la prière, elle vient du fond du cœur. Parce que tout ce qui nous enveloppe, tout ce qui nous empêche, donc de notre... Voilà le bon qui est en nous, le rotse ani, tout ça on a affaibli par le jeûne, par ce Yom HaKippurim. Et donc lorsqu'on arrive à la fin de Yom HaKippurim, on dit à Kadosh Baruch Hu, comme je suis maintenant, c'est comme ça que je veux être. Il y a un Rambam, et je termine avec ce Rambam-là, qui nous dit, c'est quoi la tshuva ? Le Rambam dit, la tshuva, c'est « Ad sheya'id alav yodea ta'alumot » qu'il ne recommencera plus. C'est-à-dire que la vraie teshuvah, c'est lorsque Akadosh Baruch Hu lui-même peut témoigner que je ne recommencerai plus. Ça, c'est ce que nous dit le Rambam. Alors, les Mefarshim se posent la question, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une teshuvah qui est presque, on va dire, impossible. Puisque si on a fait teshuvah une fois et qu'on refaute encore une fois, donc ça veut dire que la première teshuvah n'était pas bonne. Donc c'est-à-dire que toute la teshuvah de chaque année, Yom HaKippurim, si on refait les mêmes averot, ce qui est, on va dire, malheureusement un peu le cas, on refait peut-être pas toutes les mêmes averot, mais il y a beaucoup de petites averot qu'on refait. Donc ça veut dire que notre teshuvah n'était pas bonne, puisque on n'est pas arrivé à cette madrega de Yahid Alav Yodea Ta'alumot. Mais il y a une explication qui n'est pas très connue, qui est une explication du fameux Reb Shimon Shkop, qui était un des grands rachis yeshivot de l'avant-guerre. Et cette explication du Reb Shimon Shkop, elle a été le seul qui l'a rapportée, c'est son élève, le Rav Koppelman, qui était mon maître pendant de longues années, et qui disait comme ça. Il disait que l'explication de ce Rambam, Ve'yahid alav yodea ta'alumot, c'est que tel que je suis à Yom HaKippurim, au moment de la Nehila, maintenant, comme je suis, c'est sûr que si je suis comme ça toute l'année, je ne fauterai pas. Et si à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu peut témoigner que je ne referai pas la même faute, eh bien, c'est là que ma teshuvah est valable. Même si demain, après Yom HaKippurim, puisque je ne serai plus à la même madrega, je vais peut-être arriver à fauter, mais ce que le Rambam a voulu dire, Vyaïd alav yodea talumot, c'est-à-dire au moment de Yom HaKippurim, au moment où je me sens le plus élevé, si à ce moment-là, je ne veux plus, je ne peux plus voter, puisque comme les racines me disent, quelle est la différence entre Tisha B'Av et Yom HaKippurim ? Dans les deux, on ne mange pas. C'est que Tisha B'Av, qui peut manger, puisque c'est le jour de la destruction du Beth Amikdash. Et Yom HaKippurim, c'est qui a besoin de manger. Puisqu'on est arrivé à un tel degré, on s'est tellement élevé le jour de Yom HaKippurim qu'on n'a plus besoin de manger. Lorsque, à la fin de Yom HaKippurim, avec le jeûne, avec les tfilot, avec une journée passée à la synagogue où on s'est élevé, on n'a plus envie de fauter. On n'est plus attiré ni par la nourriture, ni par ce monde-ci, on s'est élevé. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu peut effectivement témoigner qu'on ne fautera pas. Maintenant, on me redonne les mêmes fautes que j'ai fait hier, avant-hier, je ne les referai pas. Ça, c'est le Yahed Alav Yodéat Alomot. Et c'est ça, à ce degré-là, Yom HaKippurim, qu'on doit arriver. Alors, c'est vrai qu'après Yom HaKippurim, on ne restera pas dans la même madriga, mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que Yom HaKippurim, à ce moment-là, on était dans cette madriga très forte et très haute. Et pour que cette teshuva tienne, il faudra à ce moment-là prendre un petit quelque chose que l'on gardera tout au long de l'année. Et c'est ça ce qui nous permettra de conserver cette teshuva. Donc voici un petit aperçu, si on peut dire, d'un petit point sur la teshuva de Yom HaKippurim. Comme on a vu, ces remazim que nos chachamim ont voulu nous enseigner à travers la lecture de l'Haftara de Yona. Donc, on est pourquoi maintenant, dit le Magen Avraham, que dans certaines communautés, on ne lisait que 3 psukim en hébreu et tout le reste était traduit parce que c'est effectivement un message très fort que nos chachamim veulent nous enseigner à travers l'Haftara de Yona. On a un enseignement à apprendre. Akadosh Baruch Hu nous donne Bezrat Hashem qu'on puisse tirer chacun d'entre nous à notre niveau, là où se trouve l'enseignement que l'on doit de Yona et qu'on est tous Gmar Khatima Tova pour avoir une bonne
douceur.
Une question. Vous avez parlé. Problème.